L'auberge où ce bon samaritain a conduit le malheureux, ce malheureux blessé. À votre avis, elle se trouvait du côté de Jéricho ou du côté de Jérusalem? Ce samaritain, dont on peut supposer que lui aussi, comme les deux autres hommes avant lui, descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est évidemment un trajet symbolique que les pères de l'Église ont abondamment commenté. Mais ce samaritain, lorsqu'il a recueilli ce blessé, est-ce qu'il l'a emmené en poursuivant sa route pour l'amener du côté de Jéricho, ou est-ce qu'il a rebroussé chemin? Est-ce qu'il a dû revenir en arrière et le ramener à Jérusalem? Si je pose la question, c'est parce que je voudrais vous proposer d'imaginer que le frère de la victime, le frère de ce malheureux agressé, faisait lui le trajet inverse. Il venait de Jéricho et il montait à Jérusalem. Et les deux frères étaient convenus de se retrouver à mi-chemin. Ils savaient à quelle heure l'un et l'autre partaient et ils devaient se rencontrer pour ainsi se croiser et se voir. Or voilà que plus il avance, ce frère qui remonte de Jéricho, plus il avance, plus il s'étonne de ne pas le rencontrer, plus il s'inquiète de ne pas le voir, se demande ce qui lui est arrivé. Il rencontre le premier homme, le prêtre, le premier des deux hommes à ne pas s'être arrêté. Et il dit, excusez-moi monsieur, mais vous n'auriez pas vu mon frère qui était devant vous, que je devais retrouver, avec qui j'avais rendez-vous? Et l'autre, l'effronté, non. Pareil, quand il rencontre le Lévite, il lui demande, excusez-moi monsieur, vous n'auriez pas vu sur la route mon frère que je devais retrouver, qui descendait, qui devait, vu l'heure, il était nettement avant vous. Et l'autre, avec le même aplomb, ment aussi effrontément, aussi froidement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Dans la vie, mes amis, il y a presque toujours des témoins. Très souvent, on croit que personne ne nous voit, que personne ne saura. Si, de toute façon, Dieu nous voit. Je continue l'histoire. Ce frère, l'homme qui remontait, évidemment finit par retrouver, à force de chercher, finit par retrouver son frère dans l'état pitoyable que l'on sait, dans le lieu que l'on sait, dans cette auberge, en train de se remettre péniblement de son agression, de ses blessures. Mon pauvre vieux, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et avec lui, en reconstituant les faits, il comprend que les deux hommes qu'il avait croisés étaient évidemment passés sur les lieux et ne s'étaient pas arrêtés. Et peut-être même d'ailleurs que son frère, le gisant, les avait vus malgré toutes ses plaies, malgré ses blessures, à l'aide. Et comme le monde est petit, vous le savez bien que le monde est tout petit, non seulement ce frère qui remontait se souvient très bien de ces deux hommes, mais il sait aussi très exactement à qui il va s'adresser, auprès de quelle autorité il va pouvoir dénoncer ces deux hommes qui sont la honte de l'humanité, qui plus est de leur profession. Ce qui fait que lorsque le prêtre et le lévite reviennent à Jérusalem, ils se font convoquer par leurs supérieurs pour s'expliquer qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? C'est la question que nous entendrons en septembre dans une autre parabole. Une parabole qu'on appelle la parabole de l'intendant malhonnête. Et on peut poursuivre, pour continuer à imaginer leur réaction, la façon dont ils font l'innocent. Quoi? Il suffit de se souvenir de l'impudence de Judas au dernier repas. Quand Jésus annonce aux 12 que l'un d'entre eux va le livrer, et qu'il dit, Judas, avec quelle impudence, il dit, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Mais ces deux hommes, quelle que soit leur dénégation, évidemment, il n'y a pas besoin d'un grand interrogatoire, ils finissent par lâcher. C'est quand même très difficile de mentir longuement sans se couper. Je ne veux pas dire que c'est un métier, mais malheureusement, c'est une longue habitude. Et on espère que ce n'est pas la leur. Et plus encore, quand on n'a pas la conscience de la gravité de ses actes, et qu'on ne voit pas pourquoi l'autorité en fait une telle histoire, pourquoi ça accorde si tout en importance, et que le fautif est dans ces cas toujours tenté de relativiser avec ses raisonnements tristement ordinaires. Non, non, c'est pas moi. Et même si c'était moi, ce serait pas si grave. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça, c'est pas si mal terminé. Je pense, avec colère, une colère qui n'est pas prête de retomber, même si je sais ce que dit la lettre de Saint Jacques, que la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu, je pense avec colère à ces autorités ecclésiastiques, évêques, pères abbés, supérieurs, à qui des prêtres indignes, et vous comprenez très bien qui je désigne, des prêtres indignes ont été dénoncés, et qui les ont laissés en activité. Et c'est moins normal de leur laisser une deuxième chance, une troisième chance, puisqu'ils promettaient de ne pas recommencer. Est-ce qu'il y en a encore ? Oui. Oui, il faut pouvoir le dire avec la même colère, la même stupeur, d'autant que la plupart de ces évêques se sont auto-amnistiés dans une prétendue responsabilité institutionnelle. La parabole de l'intendant malhonnête, à laquelle je faisais référence, traite d'un méfait autrement moins grave. Un vol, ce qui est déjà grave, c'est quand même moins grave. Et à cet intendant malhonnête, ce gérant indigne, le maître dit dans la parabole, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Tu ne peux plus être mon gérant. Tu ne peux plus exercer. » Il y a des fautes, mes amis, dans la vie, qui ne permettent plus d'exercer certaines responsabilités. Et parfois définitivement. Et en tout cas, il y a une règle qu'on devrait suivre, à savoir que la peine du coupable doit durer au moins aussi longtemps que la souffrance de la victime. Et l'autorité qui aura maintenu de telles personnes indignes en activité, qui leur aura maintenu leur confiance, devient elle-même motif de scandale. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est l'autorité qui devient motif de scandale. Malheur à elle, vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre qu'on la précipite à la mer, dit Jésus sur ses motifs de scandale. Comme il dira de Judas qu'il aurait mieux valu que cet homme-là ne soit pas né. Laisser faire est parfois aussi grave que de faire. C'est ce que nous disons au début de chaque messe quand nous disons que nous avons péché par action et par omission. Il faut quand même qu'on en prenne la mesure. Par action et par omission. Dans la parabole du jugement dernier, dans ce grand texte de la parabole du jugement dernier, vont au feu éternel ceux qui ne sont pas venus en aide aux plus petits de leurs frères. C'est à moi, dit le Christ, c'est à moi, dit le Christ, que vous ne l'avez pas fait. Le Christ, dans cette parabole, n'est pas seulement le bon samaritain. Le Christ, le Seigneur, est aussi la victime attaquée, martyrisée, abandonnée. Et voyez que Jésus ne fait pas arriver, dans cette histoire, ne fait pas arriver le prêtre et le lévite au moment de l'agression, au plus fort de l'attaque. Il ne les met pas face au danger. Personne ne sait comment il réagira dans le danger, ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne nous demande pas de combattre, mais de prendre compassion, de savoir s'arrêter, d'avoir un minimum pitié, de pouvoir soigner. Au soir de notre vie, mes amis, il y aura ce que l'on aura fait et ce que nous n'aurons pas fait. Mais pas seulement dans notre vie morale, tout autant dans la prière. Comment venir en aide à tous les malheureux que nous voyons, que nous croisons, si nous ne les portons pas déjà dans notre prière, s'ils ne font déjà pas partie de notre vie avec Dieu? C'est pratiquement l'unique, la principale recommandation que les apôtres ont faite à Saint Paul à ses débuts. C'est ce que saint Paul raconte dans la lettre aux Galates, à propos des apôtres. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres. Et saint Paul ajoute, ce que j'ai pris grand soin de faire. Que le Seigneur nous donne de ne pas oublier, délaisser, abandonner les victimes. Dieu est aussi la victime abandonnée.